Atelier des médias, la deuxième partie sur RFI. Rendez-vous avec les observateurs de France 24 dans un quart d'heure. L'actualité vue par les non-professionnels et vérifiée par des journalistes. On parlera cette semaine notamment de la mer d'Aral en Asie centrale, ex-soviétique. Cette mer n'a plus de mer que le nom, elle est presque totalement asséchée. Mais avant cela, je vous propose la rediffusion d'un reportage que nous vous avions proposé au mois de mars dernier. Ça se passe en Thaïlande.
RFI. L'atelier des médias. Médias du monde. Philippe Couve.
Nous sommes à Bangkok pour ouvrir cette deuxième partie de l'atelier des médias. Bonjour Arnaud Dubus.
Bonjour.
Vous êtes le correspondant de RFI en Thaïlande. Avec vous, nous allons voir comment la crise politique des derniers mois se répercute aujourd'hui sur le monde des médias.
Oui, la crise politique a eu un effet de polarisation des médias et tout particulièrement dans le domaine audiovisuel. Et en fait, ça a provoqué beaucoup de questionnements au sein des milieux des journalistes.
Des journalistes qui ont pris fait et cause pour un camp ou pour l'autre et qui sont aujourd'hui à la recherche de leur crédibilité perdue. On écoute tout cela dans votre reportage et je vous pose ensuite les questions des internautes qui ont pu l'écouter en avant-première cette semaine sur le site de l'Atelier des médias.
http://atelier.rfi.fr.
Décembre 2008, des dizaines de milliers de militants anti-gouvernementaux vêtus de jaune occupent l'aéroport international de Bangkok, la capitale thaïlandaise. Une scène surréaliste, des voyageurs désemparés, des musulmans en partance pour la Mecque, errant sur le sol de marbre de l'immense terminal passager de l'aéroport Souvanaphum. Autour d'eux, une mer jaune de militants hurlant dans des mégaphones et faisant claquer leurs applaudisseurs en plastique. Derrière cette mobilisation qui a duré pendant 6 mois, un groupe de presse thaïlandais, le groupe Manager et sa télévision par satellite ASTV. Une journaliste vedette de la chaîne, Sarosha Pornhudomsak, monte sur l'estrade et se lance dans un discours en anglais. La chaîne ASTV est depuis longtemps devenue l'outil de communication, voire de propagande des chemises jaunes qui s'opposaient au gouvernement en place, formé des partisans de Thaksin Shinawatra, milliardaire et ancien Premier ministre. 2 mois après, Sarosha reconnaît s'être jetée à corps perdu dans la lutte politique, un élan qui, dit-elle, a affecté sa crédibilité professionnelle.
During the protests, I didn't actually consider myself a journalist.
Au moment des manifestations, je ne me considérais plus vraiment comme journaliste. J'avais cessé de faire des programmes télé, j'avais arrêté mon rôle éditorial à STV et en particulier à TOC. J'étais militante à plein temps et j'ai fait ce que je croyais nécessaire pour que nous puissions sortir de cette crise dans laquelle nous étions plongés à la fin de l'année dernière. Maintenant que c'est terminé, j'ai vraiment essayé de revenir à un rôle de journaliste. Mais comme vous dites, eh bien, il n'y a pas de vraie impartialité, il n'y a pas de vraie objectivité. Les êtres humains auront toujours leurs opinions, toujours.
La chaîne ASTV n'est pas la seule chaîne de télévision qui s'est engagée dans le combat politique. À vrai dire, une majorité des équipes éditoriales s'était transformée en troupes militantes. Du côté des chemises rouges, partisans de Thaksin Shinawatra et ennemis jurés des chemises jaunes, on trouvait la chaîne National Broadcasting Thailand ou NBT. Dans un show appelé La vérité aujourd'hui, des commentateurs vilipendaient les leaders de l'Alliance du peuple pour la démocratie, les chemises jaunes, jusqu'à les qualifier de sauvages et d'animaux. Sharon Sri Omprasong, journaliste à la chaîne NBT, nie toutefois que la station se soit montrée partisane lors du conflit politique.
Il faut expliquer que la chaîne NBT est une chaîne supervisée directement par l'État. La chaîne ASTV est la chaîne des chemises jaunes, celle de l'Alliance du peuple pour la démocratie. La politique de NBT est de produire des nouvelles qui seront utiles à l'État. Quand les gens disent que NBT appartient aux chemises rouges, ce n'est pas juste. Ils disent cela à cause d'un seul reportage qui a été mis sur l'antenne, mais cela n'a jamais été la ligne politique de la chaîne. Il n'est donc pas exact de dire que NBT est aux chemises rouges. Tous les journalistes qui travaillent à NBT suivent la ligne de l'État. Ils jouent un rôle de relations publiques pour le gouvernement.
Pour les experts des médias, le constat est toutefois incontournable. La plupart des chaînes de télévision et de leurs journalistes se sont fourvoyés. Selon Somkiat Andvimon, un vétéran de la télévision qui dirige aujourd'hui sa propre société de médias, la polarisation du paysage audiovisuel thaïlandais a été flagrante.
Les deux groupes ayant des divergences politiques représentées par la couleur de leur chemise, le rouge et le jaune, ont chacun leurs propres médias, particulièrement les chemises jaunes, parce que le groupe de presse manager appartient aux chemises jaunes. Et donc, vous ne pouvez pas vraiment faire confiance dans les informations publiées par le journal Manager, par la télévision satellite de Manager et par la radio de Manager. Ils ne font que représenter leur propre point de vue politique. Ils sont libres de transmettre car ils n'utilisent pas la loi thaïlandaise. Ils louent un transmetteur d'une firme de Hong Kong.
Alors, y a-t-il eu grave dérapage professionnel et trahison des principes d'honnêteté et d'équilibre propres à la déontologie journalistique ? Dans le climat politique surchauffé de la fin 2008, où les journalistes étaient pris à partie par les manifestants et où les locaux de certaines chaînes ont été saccagés ou objets d'attentats à la bombe, il était peut-être difficile de garder la bonne mesure. Selon Sarosha Pornudomsak, rédactrice en chef à la chaîne ASTV, prendre parti était un devoir face au barrage de propagande des médias gouvernementaux.
Si nous parlons de ça, nous devons aussi parler des fondations de la société au sein de laquelle les journalistes travaillent. Je pense que dans une société comme la Thaïlande, eh bien, il est très difficile d'être impartial. Et c'est très difficile, là encore, pour les journalistes ou pour les médias, d'adopter un rôle impartial dans ce qui se passe. Lors de la dernière crise politique, je pense que la raison pour laquelle la chaîne ASTV a joué un rôle si important dans les changements politiques qui sont produits, eh bien, c'est que les médias thaïlandais sont contrôlés par le gouvernement. Si vous regardez toutes les chaînes de télé gratuites, comme la chaîne 3, qui est supervisée par le MCOT, cette agence audiovisuelle du gouvernement, on regarde la chaîne 5 et 7, elles appartiennent aux militaires. La chaîne 9, eh bien, c'est encore le MCOT. La 11, elle appartient au gouvernement. Et PBS, eh bien, essaie d'être ce que l'on appellerait un peu un média indépendant. Mais en réalité, cela revient à de la censure. Censure extérieure, autocensure. Alors moi, je pense qu'ASTV et moi, en tant qu'employés cette chaîne, eh bien, nous avions vraiment conscience qu'à ce moment-là, l'autre version de l'histoire devait être donnée.
Au-delà de l'engagement idéologique, n'y a-t-il pas parallèlement un manque de professionnalisme de nombreux journalistes thaïlandais, particulièrement au sein des chaînes de télévision où les journalistes sont plus engagés pour leur apparence agréable que pour leurs connaissances et leur capacité d'analyse? Pour Kavi Chonkitavorn, directeur adjoint du groupe de presse Nation, la réponse est sans appel.
Une chose dont les gens ne parlent pas, c'est de la qualité des journalistes eux-mêmes. Ils auraient besoin d'être formés sur la compréhension du journalisme moderne. Je pense que leur regard s'est focalisé sur l'apparition de nouvelles personnalités politiques qui les ont enthousiasmés lors des derniers événements et ils ne savent pas comment séparer leur profession de journaliste de leurs propres convictions, sachant qu'ils participent aux événements au jour le jour. Je pense qu'une bonne formation de journaliste est crucial pour l'avenir de la réforme des médias.
Après des mois de guerre médiatique, le nouveau gouvernement dirigé par le jeune Apicit Vejjajiva a entrepris de réformer les médias et tout particulièrement l'audiovisuel public. Une réforme qui risque d'être fortement critiquée par certains qui la considèrent comme une atteinte à l'indépendance des médias. Mais selon Kavi Chonkitavorn du groupe Nation, cette réforme est indispensable.
La réforme des médias n'est pas un problème nouveau. La Thaïlande est l'un des pays qui, à mon sens, a besoin d'une réforme radicale des médias. Parce que depuis 1997, après la crise économique, les médias sont la seule institution qui n'a pas pris de mesures de réforme. Et donc, il y a un gros problème d'intérêts acquis, de manque de professionnalisme, de manque de formation. Et puis aussi, les journalistes mêmes, ils comprennent mal leur propre rôle d'arbitre. Beaucoup ne peuvent pas comprendre, particulièrement dans les radios et les radios communautaires. Je pense que la réforme des médias est importante. Et je pense que l'implication du gouvernement est importante. Mais il doit être équilibré avec la participation du public. Pour le moment, ce gouvernement ne s'est pas encore ouvert pour permettre la participation du public. Hier, le gouvernement a mis en place un comité pour la réforme des médias. Je crois qu'il y a 14 experts, y compris des professeurs et des experts des médias. Je pense que c'est très bien pour étudier les moyens de réformer les médias.
La longue crise politique dont la Thaïlande émerge à peine a été une sorte de traversée du désert. Les faiblesses du système sont apparues et les associations professionnelles de journalistes reconnaissent qu'il faut une remise à plat. À leurs yeux, l'objectif doit être que les chaînes de télévision ne deviennent plus jamais l'outil de propagande des différentes factions politiques.
À L'atelier des médias.
Médias du monde.
Un reportage réalisé par Simon Decreuse, un reportage que les internautes ont pu découvrir sur le site de l'Atelier des médias cette semaine. Un reportage que vous avez réalisé, Arnaud Dubus, vous êtes le correspondant de RFI à Bangkok, et Aruke, sur le site de l'Atelier des médias, vous demande quel a été le déclic pour vous, le déclic qui vous a conduit à vouloir traiter de ce sujet.
Eh bien, en fait, je regarde beaucoup la télévision thaïlandaise, je parle la langue thaïlandaise, et j'ai vraiment été frappé pendant les longs mois pendant lesquels a duré la crise politique par le traitement qu'ont fait les médias, c'est-à-dire que très vite, tout professionnalisme, tout couverture équilibrée des événements a été oublié, et les médias ont pris parti de manière vraiment très tranchée pour un côté et pour l'autre. Et ça m'a beaucoup intrigué, disons, le fait que aussi vite des journalistes professionnels pouvaient plonger dans le militantisme.
Alors qu'auparavant, ces journalistes n'étaient pas du tout dans ces attitudes militantes ou partisanes ?
Non, beaucoup moins. C'est-à-dire la situation politique en Thaïlande était moins tendue. Mais la crise politique, en fait, a duré plus que plusieurs mois. La crise politique a commencé fin 2004 et donc a duré pratiquement 4 années. Et au fur et à mesure, on a vu de plus en plus de manifestants descendre dans les rues et de plus en plus les médias audiovisuels, particulièrement les télévisions, prendre parti pour un camp ou l'autre. Donc les chemises rouges, les partisans de l'ancien Premier ministre Thaksin, et les chemises jaunes qui voulaient démanteler le régime de Thaksin et ensuite démanteler les gouvernements dirigés par les lieutenants politiques de Thaksin.
Autre question d'Aruke sur le site de l'Atelier des médias. Existe-t-il des moyens en Thaïlande pour sanctionner les journalistes ou les médias en cas de débordement ? Débordement, c'est le mot qu'il utilise.
Bien, en fait, pour tout ce qui est programme de télévision, donc il faut dire, hein, comme il a été dit dans le reportage, la plupart des chaînes de télévision sont des chaînes soit directement gouvernementales, soit financées par le gouvernement, soit qui appartiennent aux militaires, donc disons des chaînes sous contrôle étatique en général. Et tous les programmes qui sont critiques vis-à-vis du gouvernement sont immédiatement supprimés. On a vu beaucoup de suppressions de programmes au cours de ces dernières années. À chaque fois qu'un programme déplaisait au Premier ministre, il a été supprimé. Mais c'est là que la chaîne ASTV, donc la chaîne qui était opposée au Premier ministre Thaksin, a vraiment innové. C'est qu'elle diffusait par satellite, et le satellite n'était pas basé en Thaïlande, mais était basé à Hong Kong. Et donc ASTV échappait à ces sanctions gouvernementales.
Arnaud Dubus, est-ce qu'en Thaïlande, la presse écrite a été touchée, comme les médias audiovisuels, par cette polarisation des journalistes ?
Alors, beaucoup moins, disons, la presse écrite est en général beaucoup plus professionnelle que la presse audiovisuelle. Ils essaient de faire une couverture beaucoup plus équilibrée des informations. Et en général, bon, même si on sait que certains quotidiens, comme par exemple le quotidien Matichon, qui est un peu le monde, disons, le quotidien de référence en Thaïlande, est plutôt pro-démocrate, disons, pro-parti démocrate en général, que les quotidiens Thaïrat et Daily News seront plutôt pro-Thaksin au moment où Thaksin était Premier ministre. En général, c'est quand même assez équilibré. Le problème de la presse écrite n'est pas un problème d'affiliation politique, c'est beaucoup plus un problème d'affiliation avec des groupes d'affaires. Tous ces groupes de presse écrite sont contrôlés par des groupes d'affaires, que ce soit des groupes de complexes commerciaux ou des compagnies de construction. Et là, évidemment, ils ne peuvent pas heurter les intérêts de leurs propriétaires.
Arnaud Dubus, votre reportage a suscité des commentaires et des réflexions sur le site de l'Atelier des médias sur la distance nécessaire que les journalistes devraient avoir vis-à-vis des politiques. Une dernière question, je voudrais savoir où on en est en Thaïlande aujourd'hui des travaux de ce comité pour la réforme des médias dont vous nous annoncez la naissance à la fin de votre reportage.
Eh bien, la réforme commence vraiment. Donc, ce comité de 14 sages a été mis en place. Donc, on en est pour l'instant au stade des discussions préliminaires. Disons, l'objectif est en fait de redonner une certaine autonomie aux chaînes de télévision, donc de les découpler un peu des différents partis politiques, mais, et là c'est paradoxal, en les faisant financer par le gouvernement. Donc c'est un peu la problématique qui existe dans beaucoup de pays, y compris la France, c'est-à-dire de faire financer les chaînes de télévision par des ressources publiques, mais en même temps en ménageant une certaine autonomie éditoriale pour ces chaînes de télévision. C'est un peu le fameux modèle de la BBC ou de Australian Broadcasting Corporation qui sont étudiés actuellement en Thaïlande pour servir de modèle aux télévisions thaïlandaises.
En ligne sur l'Atelier des médias. la cuisine de l'info.
I started rhyming just to be somebody, to make people notice me at the party, and not be just the new kid that's albino. Make them say, yeah, I know, but have you heard them rhyme, no? Now I take that same party around the globe, and my story connected with a lot of folks. I hope so, cause that's the only thing that I know. I know it so well, I tell it with my eyes closed. And I go with the feeling from the start, blind in the eyes, so I see you with my heart. And to me, all y'all look exactly the same. Fear, faith, compassion, and pain. And science, we made a mask with names, such as your religion or your classic race. The same color blood just passed through our veins. And tears taste the same when they splash on your face. The world's getting too small to stand in one place. It's like we're roommates just sharing a space. Can't separate and still carry the weight. Gotta heal, get away from the fear and the hate. Gotta shake free from the chains. You see what remains, just a human being, end of the day. Don't matter to me what name you gave your spiritual plane. Close your eyes and you see what I'm saying. I started rhyming just to be somebody. I found out that I already was. Cause can't nobody be free unless we're all free. It's no me and no you, it's just us. Street preacher, what a fan once called me. I've been called worse and tried to live up. Hope you don't mind a few more stories. I swear to God, y'all, I tell them with love.
Un titre à retrouver sur le site de l'Atelier des médias avec les explications de Simon de Creuse. Dans 20 minutes, ce sera Mondoblog dans l'Atelier des médias. On parlera rentrée scolaire et utilisation des blogs dans les classes avec Cédric Calongi et nos invités.
L'Atelier des médias avec les observateurs de France 24. Vos yeux aux quatre coins du monde.
Lesobservateurs.fr.
Philippe Courbe, Julien Pain.
Et tout de suite, les observateurs en compagnie de Julien Pain. Bonjour Julien.
Bonjour.
Les observateurs des internautes aux quatre coins du monde qui sont témoins de l'actualité et leurs informations, c'est votre équipe de journalistes, Julien, qui les vérifie et qui les publie sur le web. On commence cette semaine en Chine.
Alors pour un Français, la sortie du samedi chez Ikea, bah c'est l'enfer. On se rappelle tous des files d'attente interminables et des deux heures pour sortir la voiture du parking. Eh bien pour les Chinois, c'est le contraire. Pour eux, les meubles Ikea, bon c'est un peu cher, mais par contre ils adorent leur magasin. Un de nos observateurs chinois qui s'appelle Du Xiaodong nous envoie des photos prises dans le magasin Ikea de Shanghai. On voit que pour les Chinois, c'est la sortie de la semaine. Certains se prélassent dans les canapés, d'autres s'endorment carrément dans les lits de démonstration. Et puis surtout, ils adorent le restaurant du magasin. Rien n'est cher. Un internaute raconte même que des vieilles dames viennent chez Ikea juste pour récupérer les sachets de sucre qui sont disponibles gratuitement sur les présentoirs.
Après la Chine, direction l'Ukraine maintenant.
Alors vous pensez que l'Ukraine n'est pas un pays très touristique ? Eh bien vous vous trompez, il s'agit en fait d'un tourisme assez particulier. L'Ukraine est le premier pays européen en matière de tourisme sexuel. Une association a donc décidé de lutter pour redorer l'image de leur pays. Ces activistes sont toutes des femmes et pour dénoncer la prostitution, elles emploient des méthodes assez peu conventionnelles. Ces femmes se mettent à moitié nues sur les places de Kiev en brandissant des pancartes dénonçant le sexisme de la société ukrainienne. Alors est-ce que montrer ses seins est une bonne méthode pour lutter contre le commerce de la chair ? La discussion est ouverte sur le site des observateurs de France 24.
Site sur lequel on peut retrouver tous les sujets dont on vient de parler.
Vos yeux aux quatre coins du monde.
Dans cette rubrique des observateurs dans l'atelier des médias, on revient chaque semaine sur la manière dont on fabrique l'info et sur les images qui nous arrivent chaque jour en tentant de les décrypter. Retour cette semaine, Julien, sur la situation en Iran avec ces témoignages concernant les mauvais traitements infligés aux personnes qui ont été arrêtées en marge des manifestations qui ont suivi la dernière élection présidentielle en Iran.
Alors cette semaine, on publie un témoignage assez frappant, c'est le témoignage de Mignot. Mignot, c'est évidemment un pseudonyme parce qu'on n'a pas pu donner la réelle identité de cette jeune femme. Elle a été arrêtée en juin lors des manifestations. Elle a passé à peu près un mois en prison. Et sur les observateurs, on a récupéré donc sa voix où elle raconte ce qui s'est passé en prison et les traitements qu'elle a subis. C'est assez terrible. Elle parle notamment du harcèlement sexuel qu'elle a subi. Donc elle n'a pas été violée, contrairement à d'autres en prison. Ça a été prouvé qu'il y a eu des viols en prison. Elle a simplement été harcelée, notamment les gardiens s'amusaient à lui faire réciter et coucher sur le papier tous les amants et toutes les relations sexuelles qu'elle a vues au cours de sa vie, en lui faisant évidemment inventer les choses les plus saugrenues. Elle a été complètement traumatisée. Alors sur ce document sonore, on a beaucoup hésité évidemment à le publier parce que on peut être l'objet de toutes les manipulations. Le problème en Iran, c'est qu'on ne peut pas y aller. Les journalistes ne sont plus autorisés à faire leur métier dans ce pays-là. Donc c'est difficile de rencontrer les gens en tête-à-tête pour enregistrer leurs témoignages. Et c'est des témoignages qu'on reçoit par Internet. Ce témoignage, on a décidé de le publier parce qu'il nous est venu par l'intermédiaire d'un autre observateur. Et c'est là l'intérêt d'avoir un réseau d'observateurs préétabli, c'est qu'il y a des gens en qui on a confiance. Et cet observateur, ça faisait plus d'un an qu'on travaillait avec lui. On a confiance en lui, il nous a donné des informations qui étaient valables à chaque fois. Et il nous a assuré que c'était une amie à lui. Donc on avait déjà un premier élément de réponse. Ensuite, peu avant, il y avait un député iranien qui a annoncé qu'effectivement, enfin, il l'a pas fait publiquement, mais il a reconnu que des viols avaient été commis en prison, et il raconte une histoire qui est à peu près similaire à celle de Mignot, donc les faits étaient crédibles. Et enfin, un autre témoignage était sorti peu avant dans Times Online, un journal qui vérifie bien ces informations, où on retrouvait aussi des éléments qui étaient similaires. Donc toutes ces petites informations mises ensemble, on s'est dit que le document était fiable et on a décidé de le publier. Évidemment, sur les observateurs, ça a créé une énorme discussion, notamment par rapport à la validité de l'information. Mais ça arrive maintenant sur toutes les informations qu'on publie sur l'Iran. Il y a toujours maintenant des Iraniens, on va dire pro-régime, et des opposants qui se retrouvent sur le site des observateurs et qui essaient de démonter les informations qu'on met en ligne. Je trouve que sur ce document, la façon dont les critiques qui venaient du camp pro-Ahmadinejad n'étaient pas vraiment concluantes, et tout le monde s'accordait à dire que le témoignage était de toute façon tout à fait crédible.
Plus d'infos sur cette affaire à retrouver sur le site des observateurs de France 24.
Lesobservateurs.fr. Philippe Couve, Julien Pin.
Direction l'Asie centrale, il y a 20 ans encore, c'était l'Union soviétique, et aujourd'hui, nous sommes à la frontière de l'Ouzbékistan et du Kazakhstan, et vous publiez, Julien, sur le site des observateurs, des images très impressionnantes. Ce sont des images satellites de la NASA qui montrent que depuis les années 60, la mer d'Aral se réduit comme peau de chagrin, à tel point qu'elle n'a plus de mer que le nom. Et l'un de vos observateurs russes décrit les conséquences de cette catastrophe environnementale. Avec nous en studio, Arnaud Jouve, Arnaud qui suit de longue date les questions d'environnement à RFI. On vous retrouve dans l'émission C'est pas du vent tous les jours de 9h à 10h temps universel sur RFI. Arnaud, vous connaissez la mer d'Aral, vous êtes rendu sur place. C'est quoi les images qui vous restent de là-bas?
Des images un petit peu tristes. Hein. À l'époque soviétique, Mouinak par exemple, qui était le grand port de la mer d'Aral, qui était à ce moment-là encore le plus grand lac de la planète, est aujourd'hui une zone complètement sinistrée. La mer a laissé la place à un désert balayé par le vent. À la rade du port se trouvent encore quelques gros chalutiers rouillés, couchés sur le sable, qui témoignent d'une époque complètement révolue. La ville semble abandonnée. La population restante tente de survivre dans des conditions climatiques et économiques très difficiles. Vous pouvez encore y rencontrer un ancien pêcheur qui vous emmènera peut-être à son bateau ensablé et qui vous racontera avec beaucoup d'émotion les pêches abondantes, l'activité sur la place du marché, les avions qui emmenaient le poisson dans tout le pays. Aujourd'hui, la mer s'est retirée et ce qu'il en reste, c'est un désert. C'est un immense désert. L'Aral, c'est certainement une des plus grandes catastrophes écologiques de notre histoire moderne.
Mais comment est-ce qu'on en est arrivé là, finalement?
La crise de la mer d'Aral trouve son origine dans la politique qui a été mise en œuvre en Union soviétique par le pouvoir communiste, qui visait à démontrer la possibilité d'une transformation totale de la nature par l'homme. C'était une manière de créer un homme nouveau, qui était l'idéologie, et puis de lui soumettre complètement la nature, ce que le capitalisme n'avait pas pu faire. Le socialisme allait le réaliser pour, évidemment, le bonheur de l'humanité. Et ça s'est traduit très concrètement, juste après la Deuxième Guerre mondiale, par un plan de transformation de l'homme et de la nature. Ça s'appelait comme ça. Ça faisait partie des séries, des grands plans quinquennaux qui visaient à changer le climat de la Sibérie, par exemple, et qui visaient en Asie centrale à limiter l'impact de la sécheresse dans des zones immenses où l'eau était rare. Donc l'idée du plan stalinien a été d'irriguer, mais sur une échelle que l'on n'avait jamais vue jusqu'alors sur la planète, cette zone immense sur laquelle vivaient 30 millions de personnes, de manière à créer le paradis sur Terre.
Mais pratiquement, comment est-ce qu'ils ont fait? Comment est-ce qu'ils ont procédé?
Alors, ça s'est mis en place petit à petit. Ça a demandé des investissements considérables. Il y a eu deux grandes rivières dans la zone qui traversent ces immensités, qui sont l'Amoudaria et le Sirdaria, deux fleuves qui prennent leur source dans les contreforts de l'Himalaya et qui se jettent dans la mer d'Aral, qui est tout près de la mer Caspienne, la mer Noire. C'est presque le fin fond de la Méditerranée. Le Caucase, c'est presque un quart du globe. Et ils ont décidé de ponctionner sur 1000 km le cours de ces fleuves d'eau en construisant des canaux qui partaient dans le désert, qui n'aboutissaient nulle part, pour irriguer le désert, pour faire dans ce désert de l'agriculture, faire du coton. Alors, c'était la meilleure façon pour le système de faire une démonstration irréfutable aux yeux des populations déshéritées du monde entier. C'était le début du mouvement de la décolonisation, c'était le moment des révolutions vertes en Chine ou en Inde, et c'était le moment où des tas de gens, que l'on appelait à ce moment-là le tiers-monde, se posaient le problème de leur développement. Et l'URSS voulait proposer un modèle de développement, et l'Ouzbékistan a été choisi pour être le phare de cette révolution. D'un désert, on allait faire des champs de coton dans les production serait exportée dans le monde entier. Et ça a marché entre 50 et 60. L'Ouzbékistan est devenu le deuxième producteur au monde de coton. C'était la réussite du modèle de développement qui a été proposé au tiers-monde. Mais on va s'apercevoir rapidement que ça suffit pas à faire vivre ces populations d'Asie centrale. Et dans les années 70, sous Brejnev, on s'aperçoit que l'irrigation démesurée qu'on a créée crée des problèmes que l'on n'avait pas imaginés, que l'on n'avait pas désirés sur la mer d'Aral. L'agriculture du coton a créé une espèce de deuxième catastrophe à cause des pesticides qui ont tué les écosystèmes, allant jusqu'à transformer le climat de cette partie du monde qui est devenue le désert que l'on connaît aujourd'hui.
L'histoire d'une catastrophe écologique et environnementale. Merci Arnaud Jouve. On vous retrouve du lundi au vendredi sur RFI pour C'est pas du vent de 9h à 10h, temps universel.
RFI.
C'est la fin de cette séquence observateur dans l'atelier des médias. On se retrouve la semaine prochaine, Julien.
À la semaine prochaine.
Les observateurs de France 24.
Lesobservateurs.fr.
Restez avec nous dans 10 minutes, c'est Mondoblog, l'actu des blogs et des blogueurs francophones. Notre sujet de la semaine, c'est la rentrée des classes. Quelle place pour les blogs dans la classe ? On retrouvera également les conseils de Cédric Calongi.